Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 7h sur Europe 1.
C'est vrai que depuis que l'affaire du Hamel est sortie, il ne passe pas un jour sans qu'on ait une demande d'aide.
Un tabou est-il en train de se briser? Depuis l'affaire du Hamel, il y a 10 jours, des victimes d'inceste se manifestent. À l'image de MeToo, un hashtag a vu le jour sur les réseaux sociaux.
La vaccination contre le Covid s'accélère, les rendez-vous s'empilent et les délais s'allongent.
Les Américains sont appelés à suivre l'événement devant leur poste de télé. Dans 3 jours, leur nouveau président sera investi. Une cérémonie pas comme les autres, dont on vous donne tous les détails dans ce journal.
Et puis à l'affiche cet après-midi, une pièce de théâtre comme si vous y étiez, sauf qu'elle se joue, non pas dans un théâtre, mais sur Facebook.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il suffit parfois d'être déclencheur d'une histoire, d'un témoignage pour délier les langues et briser les tabous.
Se sentir moins seul et raconter à son tour son histoire. Voilà ce qu'il est en train de se passer depuis l'affaire Duhamel. Il y a 10 jours, Camille Kouchner accusait dans un livre son beau-père, Olivier Duhamel, d'inceste sur son frère. Un témoignage qui en a suscité beaucoup d'autres sur les réseaux sociaux. Hélène Terzian.
L'affaire m'éclaire à tous les niveaux. Ça m'a bouleversée de re-questionnement.
Lorsque l'affaire du Hamel éclate, Marie se dit que c'est un signe. Ce n'est que très récemment qu'elle a découvert que son frère avait abusé de sa fille quand elle était plus petite. La maman est aujourd'hui gagnée par un sentiment ambivalent.
Ça me fait beaucoup de bien parce que je me dis oui, on peut parler, on a le droit de le faire. Et de l'autre côté, ça pose question pour les conséquences. Parce que là, dans cette affaire du Hamel, sa vie est détruite médiatiquement. Et donc moi je me dis, dans ma petite sphère familiale, je vais détruire.
Pour de nombreuses victimes et proches de victimes, l'affaire les pousse à franchir le cap. Depuis une dizaine de jours, la majorité des associations sont beaucoup plus sollicitées. Les appels doublent, parfois multipliés par 4, par 5. Une libération de la parole observée aussi par Sonia Lafergue, vice-présidente de l'association Le Monde à travers un regard.
C'est vrai que depuis que l'affaire du Hamel est sortie, il passe pas un jour sans qu'on ait une demande d'aide. Il est passé des périodes où on n'avait pas de demande du tout pendant 2 mois, 3 mois. Le fait de faire fermer la bouche à un individu pareil, ça permet à ceux qui se taisent de s'exprimer.
Des victimes rassurées, selon les spécialistes, par l'accueil du livre de Camille Kouchner par l'opinion publique.
Hélène Terzian, l'inceste reste un immense tabou dont l'ampleur est souvent sous-estimée. Selon une étude de l'Institut Ipsos réalisée au mois de novembre dernier, 1 Français sur 10 dit avoir été victime d'inceste, ça fait presque 7 millions de personnes.
Il est 7h02, la deuxième phase de la vaccination contre le Covid s'ouvrira demain. Les personnes de plus de 75 ans pourront elles aussi se faire vacciner.
Ainsi que les personnes à la santé fragile, il faut pour cela prendre rendez-vous. Et l'embouteillage a déjà commencé, les délais s'allongent. Maximilien Carlier l'a constaté au centre de Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille.
Ici, le téléphone n'arrête pas de sonner. Il y a une vingtaine de sapeurs-pompiers, professionnels, volontaires, agents administratifs. Tous ont les yeux rivés sur leur écran d'ordinateur et le site Doctolib.
Vous n'avez pas accès à Internet, monsieur ?
Non, j'ai pas accès à Internet, non.
Manuel est en train de prendre un rendez-vous pour un couple de retraités.
2 vaccinations pour mon épouse et moi-même.
Il n'y a plus de place, ce sera certainement le centre Le Bois.
Ah oui, mais on est loin, on a Villeneuve-d'Ascq, ça fait vieux, on a 82 ans.
Monsieur, on est désolé, mais à Villeneuve-d'Ascq, il n'y a plus de créneaux.
De toute façon, depuis tout à l'heure, j'appelle, et quand je fais le 2, après j'entends plus rien du tout et je fais couper.
Parce qu'il y a une saturation du nombre d'appels.
Il y en a eu environ 600 en à peine 3 heures.
Donc le rendez-vous que vous avez pour la première injection, c'est le lundi 25 janvier à 9h50.
25 janvier.
L'autre difficulté, c'est pour trouver une date, tellement il y a de monde sur la plateforme numérique.
Dès qu'on arrive à cliquer que c'est validé, paf, on est content. Quoi.
Car dans certains centres de vaccination, les créneaux du mois de janvier et février sont déjà bien remplis. Rares sont ceux qui parviennent à décrocher un rendez-vous.
Et ben, je vous souhaite une très bonne journée, monsieur. Au revoir.
Entendu. Merci, monsieur. Bon courage. Hein. Bonne journée.
Villeneuve-d'Ascq, Maximilien Carlier, Europe 1.
En France, plus d'un million de rendez-vous ont déjà été calés. 413 000 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne.
2 mois après le début des consultations, les musulmans de France réaffirment leurs valeurs.
Le Conseil français du culte musulman veut garantir un islam compatible et respectueux des lois de la République. Une charte a été adoptée hier. 8 pages saluées par Abdelali Mamoun, imam dans plusieurs mosquées de la banlieue parisienne.
Tout cela devra être le document que devra signer tous les imams.
Il y a quoi dans cette charte exactement ?
Notamment un certain nombre de principes tels que l'égalité homme-femme et sur le rejet de certaines pratiques coutumières prétendument musulmanes telles que par exemple l'excision ou les certificats de virginité et tous ces genres de choses. Ceux qui n'accepteront pas de le faire, donc les récalcitrants, eh bien, seront donc identifiés. On lèvera ainsi l'ambiguïté de certains imams qui, eux, veulent imposer leur manière de propager l'islam en France, notamment un islam politique. Voilà le rôle de cette charte.
L'imam Abdelali Mamoun avec Jean-Jacques Herry. Cette charte, l'exécutif la réclamait avant l'ouverture demain des débats sur le projet de loi séparatisme. 34 000 personnes se sont rassemblées hier en France selon la police, 200 000 selon les organisateurs. Nouvelle mobilisation contre la loi sécurité globale qui cette fois s'est déroulée globalement dans le calme.
La présidentielle c'est dans 16 mois et certains placent déjà leur pion.
Oui, certains candidats ne s'en cachent pas. Ils se présenteront en 2022 et ont donc déjà commencé leur campagne. C'est le cas de l'écologiste Yannick Jadot qui était hier dans un centre Emmaüs du Val-de-Marne, déplacement suivi par Claudia Bertram pour Europe 1.
Dans ce centre d'hébergement, Yannick Jadot échange avec le directeur général d'Emmaüs Solidarité. Écoute le témoignage d'un ancien sans-abri. En pleine crise sanitaire, l'eurodéputé ELV veut alerter sur la crise sociale.
Il y a des personnes qui sont dans des situations absolument insupportables et il y a des solutions. Et ne pas plus aider ces solutions, c'est une faute politique extrêmement lourde.
Yannick Jadot qui défend l'instauration d'un RSA pour les jeunes ou de chèques alimentaires, reproche notamment à l'exécutif de ne pas penser la sortie de crise.
Ce gouvernement a raté les masques, il a raté les tests, il a raté la vaccination. Aujourd'hui, l'immense inquiétude, c'est qu'on rate la sortie de crise du point de vue économique et social.
Accompagné de plusieurs élus écologistes, allié d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, Yannick Jadot, qui ne fait pas mystère de ses ambitions présidentielles, en profite aussi pour tacler sa potentielle rivale à gauche.
Il y a une forme de confort à se dire que la social-démocratie, de nouveau au pouvoir, ce serait bien rassurant. Je pense qu'on a changé d'époque, l'heure de l'écologie a sonné.
Yannick Jadot réinvestit donc le terrain, bien décidé à ne pas attendre sans rien faire. La primaire écologiste prévue dans 9 mois.
Un reportage de Claudia Bertram.
Et sachez qu'à 10h, c'est Gérard Larcher, le président Les Républicains du Sénat, qui est l'invité du grand rendez-vous d'Europe 1. Il est 7h06, restez avec nous dans un instant. Les États-Unis préparent l'investiture de leur nouveau président. Il y aura 20 000 soldats et... et Lady Gaga, on vous dit tout.
Votre matinale info. Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal de Marguerite Lefebvre. Il faut s'y préparer. La cérémonie d'investiture du futur président américain ne ressemblera à aucune autre.
Joe Biden prêtera serment mercredi prochain et les circonstances impliquent pas mal de bouleversements. D'abord parce qu'elle se déroule en pleine crise sanitaire et puis bien sûr parce qu'il y a ces appels à manifester. Les opposants veulent marcher sur les capitoles des États. Cérémonie à haut risque donc. Mais cérémonie tout de même, Alexis Guilleux.
Oui, mercredi midi, Joe Biden prêtera serment au Capitole. Il prononcera son discours d'investiture sans public. Le mall, cette longue promenade qui fait face au bâtiment, sera fermé. C'est ici que la foule a l'habitude de se rassembler pour assister à l'investiture. L'hymne national sera interprété par la chanteuse Lady Gaga. Et Joe Biden passera en revue les troupes. En revanche, la traditionnelle parade sera remplacée par un événement virtuel. Le nouveau président rejoindra la Maison-Blanche dans une escorte officielle composée de membres de toutes les branches de l'armée pour éviter tout risque sanitaire et sécuritaire. Les Américains peuvent avoir confiance, a dit Mike Pence. Cette administration va continuer à travailler pour assurer une transition ordonnée et une investiture en toute sécurité pour le président élu, la vice-présidente élue et pour le peuple américain. Il ne mérite rien de moins. Alors pour cela, la capitale fédérale sera bouclée par la garde nationale. Près de 20 000 soldats seront présents. La maire de la ville a même déconseillé aux Américains de faire le déplacement à Washington. Enfin, il n'y aura pas non plus de bal le soir du 20 janvier, mais une soirée télévisée animée par l'acteur Tom Hanks avec la participation de Justin Timberlake, John Legend ou encore du rocker Bruce Springsteen.
Merci Alexis Guilleux.
Très médical tout ça.
Mais on n'y assistera pas, donc pas de public pour cette cérémonie. En Afghanistan, des terroristes s'en sont pris ce matin à 2 femmes juges à la Cour suprême. Elles ont été tuées par balles en plein centre-ville de Kaboul.
7h10, c'est ce qu'on appelle un premier tour vite expédié en handball. Les Français se sont qualifiés pour le tour principal du mondial.
2 matchs, 2 victoires. La dernière, c'était face à l'Autriche hier soir. De quoi évacuer les doutes qui entouraient l'équipe de France avant la compétition. Écoutez la satisfaction du sélectionneur, Guillaume Gilles.
Pas à pas, on trace notre route dans ce mondial. Le prochain obstacle, c'est la Suisse, qui nous permettrait, en cas de victoire, de rentrer avec le maximum de points au tour principal, de nous mettre dans les meilleures conditions pour entamer cette poule compliquée du tour principal et envisager les quarts de finale. Donc, bien évidemment qu'on est satisfait et qu'on va continuer à travailler parce qu'on est aussi là pour ça, dans cette phase de reconstruction. Il y a du taf.
le sélectionneur Guillaume Gilles avec Axel May. Les chaises musicales se poursuivent dans le Vendée Globe. Ce matin, Charlie Dalin a repris la tête devant Louis Burton.
Et puis Marguerite, si on se faisait un petit théâtre cet après-midi.
Bah oui, vous ne rêvez pas, il y aura bien une pièce en direct du théâtre Rive Gauche. Elle sera retransmise sur Facebook comme un souvenir de notre vie d'avant, Diane Chénouda.
Pour moins de 9 euros sur la page Facebook du théâtre Rive Gauche, vous pourrez découvrir cette pièce qui sera jouée en direct. Le Petit Coiffeur, une comédie dramatique qui nous plonge dans l'ambiance de l'après-guerre.
Je te connais depuis 3 mois, c'est presque jamais rien dit, je sais rien de toi.
C'est sans doute beaucoup mieux comme ça.
Pour le directeur du théâtre, Éric-Emmanuel Schmitt, pouvoir rejouer même une seule fois en direct, ça redonne du baume au cœur.
On s'est dit que c'était peut-être un moyen d'aller toucher un public qui n'est pas parisien ou qui ne sort pas en ce moment. Et donc les gens ne peuvent plus aller au théâtre, alors le théâtre vient au-devant d'eux. C'est un bijou qu'on avait dans les mains et ce bijou, on a dû le remiser au coffre. Alors voilà, on le sort du coffre. Je pense que c'est une chose qui va rendre heureux certains spectateurs et puis qui va rendre heureux aussi. Si, vous savez, des artistes, tout simplement, parce que qu'est-ce que c'est difficile d'être empêché? Qu'est-ce que c'est difficile de ne plus exister? Donc, on a un petit peu le sentiment d'une étincelle. C'est pas le feu ne reprend pas, mais il va y avoir une étincelle dimanche.
La vidéo restera en ligne 48 heures après la représentation et Facebook Live reversera l'intégralité des recettes au théâtre Rive Gauche.
Diane Chénouda.
Merci, c'était le journal de Marguerite Lefebvre. À tout à l'heure pour le journal de 8h.